Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français en 2012 chez Le Courrier du Livre. 3 minutes, pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques, est un ouvrage de vulgarisation dirigé par Donald Maron, professeur d'économie et spécialiste des politiques fiscales. Son ambition n'est pas de remplacer les textes fondateurs ni un manuel universitaire complet, mais d'offrir une cartographie rapide de notions qui structurent les débats économiques. Le livre aborde notamment la pensée de Keynes, le capitalisme libéral, le monétarisme, la théorie des jeux, l'économie de l'offre, la planification centralisée, le socialisme de marché et les limites de la croissance. Chaque entrée repose sur un format visuel et très condensé, associant une synthèse brève, un développement de 2 pages, des repères d'auteur et une illustration. Cette organisation permet de passer d'une notion familière mais imprécise à une première compréhension de son mécanisme, de son contexte et de ses conséquences. L'ouvrage vise ainsi les lecteurs souhaitant réviser, s'initier ou situer les grandes écoles économiques sans présumer d'une formation spécialisée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un format de consultation qui transforme 50 théories en repères comparables. La caractéristique déterminante du livre est son dispositif de lecture par unité courte. Chaque théorie est présentée selon une gradation annoncée allant d'une idée saisissable en quelques secondes à une explication plus développée, accompagnée d'une image. Cette architecture répond à un problème fréquent en économie, les mêmes mots circulent dans les médias, les cours et les débats publics, alors que leurs définitions, leurs hypothèses et leurs implications restent confondues, en isolant une théorie par double page. L'ouvrage rend visible la diversité des questions traitées par la discipline fonctionnement des marchés, rôle de l'État, monnaie, croissance, échange ou stratégie des agents. Ce choix facilite le feuilletage et la révision. Un lecteur peut commencer par Keynes ou le monétarisme, puis rapprocher ces notions d'autres propositions sans devoir suivre un raisonnement linéaire de plusieurs centaines de pages. Les illustrations et les citations servent de repères, tandis que les pistes vers des auteurs ou concepts associés invitent à prolonger l'étude. La brièveté a cependant une contrepartie importante, elle simplifie nécessairement les controverses, les conditions historiques et les raffinements techniques. Le format est donc particulièrement adapté à la construction d'un vocabulaire et d'une carte mentale, moins à l'acquisition d'une maîtrise analytique autonome. Le titre promet une compréhension initiale, non une démonstration exhaustive de chacune des 50 théories. Deuxièmement, des visions opposées du marché et de l'intervention publique, une part essentielle de la sélection concerne les manières concurrentes d'organiser l'activité économique. Le capitalisme libéral met l'accent sur la coordination par les prix, la propriété privée et les décisions décentralisées. La planification centralisée repose au contraire sur une allocation organisée par l'autorité publique. Entre ces pôles, le socialisme de marché cherche à articuler certains objectifs collectifs avec l'usage de mécanismes de marché. La présence conjointe de ces entrées est utile, car elle empêche de traiter le mot « économie » comme s'il désignait un seul modèle institutionnel. Le livre permet ainsi de comprendre qu'une théorie économique ne décrit pas seulement des variables abstraites. Elle engage des hypothèses sur l'information disponible, les incitations des producteurs et des consommateurs, la répartition du pouvoir de décision et les finalités collectives. Le prix peut être envisagé comme signal pour coordonner des choix dispersés, tandis que la planification pose la question de la capacité d'une administration à recueillir et traiter les informations nécessaires. Les formules mixtes soulignent que l'opposition entre État et marché ne suffit pas toujours à décrire les dispositifs réels. Cette mise en regard offre un premier outil pour lire les débats politiques avec davantage de précision. Elle ne tranche pas quelle organisation serait universellement préférable. Elle rappelle plutôt que les jugements dépendent de critères distincts tels que l'efficacité, l'équité, la liberté de choix, la stabilité ou la capacité à poursuivre des priorités collectives. Les notices brèves appellent donc une lecture comparative plutôt qu'une adhésion immédiate à une étiquette. Troisièmement, Keynes et le monétarisme pour distinguer les leviers de la stabilisation. Le keynésianisme et le monétarisme figurent parmi les repères les plus utiles pour comprendre les discussions sur les crises, l'inflation et l'action des pouvoirs publics. La théorie de Keynes a mis au premier plan la possibilité d'une demande globale insuffisante et l'idée qu'une économie peut rester durablement éloignée du plein emploi. Dans cette perspective, les dépenses publiques, la fiscalité ou d'autres instruments budgétaires peuvent contribuer à soutenir l'activité lorsque la dépense privée se contracte. Le raisonnement attire donc l'attention sur la production, l'emploi et les enchaînements entre revenus et consommation. Le monétarisme accorde une importance plus centrale à la monnaie et à la stabilité de son évolution. Il conduit à examiner le rôle de la politique monétaire dans l'inflation et à se méfier des interventions discrétionnaires susceptibles de produire des effets indésirables. La juxtaposition de ces deux traditions ne signifie pas qu'elle résume toutes les controverses macroéconomiques. Elle donne cependant au lecteur des points de comparaison nets, faut-il agir d'abord sur la demande, sur les conditions monétaires, sur les anticipations ou sur les règles encadrant les politiques publiques. La valeur pédagogique de ce rapprochement tient à la clarification des mécanismes plutôt qu'à une opposition caricaturale. Les politiques économiques réelles combinent souvent plusieurs instruments et sont soumises à des contraintes institutionnelles. En présentant des théories identifiables dans un langage bref, l'ouvrage aide à repérer les présupposés derrière des expressions courantes comme relance, rigueur ou lutte contre l'inflation. Il ne remplace pas l'étude des modèles ni des données, mais fournit les catégories nécessaires pour commencer à les interpréter. Quatrièmement, théorie des jeux et économie de l'offre élargissent l'analyse des comportements. L'ouvrage ne limite pas l'économie aux grands modèles de croissance ou aux oppositions entre systèmes. Avec la théorie des jeux, il introduit une manière d'analyser les décisions lorsque le résultat de chacun dépend aussi des choix des autres. Une entreprise fixe un prix en anticipant la réponse de ses concurrentes, un négociateur tient compte des réactions possibles de son partenaire. Et un individu peut hésiter entre coopération et comportement opportuniste. L'apport de cette approche est de montrer que les incitations ne produisent pas mécaniquement un résultat collectif optimal. Les règles, l'information et les attentes réciproques modifient profondément les choix. L'économie de l'offre oriente l'attention vers un autre ensemble de mécanismes. Elle insiste sur les conditions de production, d'investissement, de travail et d'innovation, ainsi que sur les effets possibles de la fiscalité et de la réglementation sur ces décisions. Elle se distingue d'une approche centrée principalement sur le soutien immédiat à la demande. Présentées dans le même recueil, ces perspectives rappellent que les débats économiques portent autant sur la structure des incitations que sur le niveau de la dépense globale. Le bénéfice de cette diversité est méthodologique. Le lecteur apprend à poser des questions plus précises qui réagit à quelles règles, avec quelle information, sur quel horizon et face à quels autres acteurs. Une notice concise ne peut établir toutes les conditions de validité d'un modèle. Elle peut néanmoins éviter deux erreurs fréquentes, croire que tous les agents sont isolés, ou supposer qu'une mesure publique agit sans modifier les comportements qu'elle cherche à encadrer. En dernier lieu, les limites de la croissance replacent l'économie dans ses contraintes collectives. Parmi les thèmes signalés dans la présentation de l'ouvrage, les limites de la croissance élargissent le champ au rapport entre expansion économique, ressources et contraintes environnementales. Cette entrée est importante car elle déplace la question au-delà du seul calcul de la production. Une augmentation durable de l'activité peut améliorer certains revenus ou élargir l'accès à des biens et services. Mais elle soulève aussi des interrogations sur les ressources mobilisées, les effets non pris en charge par les prix et la soutenabilité des trajectoires collectives. Dans une introduction aux théories économiques, ce type de sujet a une fonction corrective. Il rappelle que les indicateurs de croissance ne résument pas automatiquement le bien-être, la distribution des gains ni les coûts supportés à long terme. Il invite également à distinguer une description des mécanismes de marché d'un jugement sur les objectifs sociaux. Les décisions économiques impliquent des arbitrages entre consommation présente, investissement, préservation de ressources et répartition des charges entre groupes ou générations. Le traitement condensé doit être lu comme une porte d'entrée vers ces débats, non comme une expertise environnementale détaillée. Les questions de mesure, de technologie, de réglementation et de coordination internationale exigent des analyses plus approfondies. Néanmoins, l'inclusion des limites de la croissance aux côtés de théories monétaires, stratégiques et institutionnelles constitue un choix révélateur. Elle montre que le livre conçoit l'économie comme un ensemble de cadres pour discuter non seulement de la richesse produite, mais aussi des conditions et des conséquences de sa production. Cette perspective rend les notions plus directement reliées aux enjeux publics contemporains. En conclusion, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques convient d'abord aux débutants qui souhaitent retrouver le sens de termes souvent rencontrés sans disposer du temps ou des prérequis nécessaires à un traité d'économie. Il peut aussi servir d'outil de révision à des lycéens, étudiants ou candidats à des examens, à condition de le compléter par des cours, des données et des textes plus substantiels. Les lecteurs déjà familiers de la discipline y trouveront surtout une synthèse de repères et une occasion de comparer rapidement des écoles ou des concepts éloignés. Son intérêt pratique vient de la combinaison entre brièveté, organisation visuelle et couverture large, plutôt que de développer une doctrine unique. Le livre juxtapose des cadres parfois opposés, mécanismes de marché et planification, interventions budgétaires et priorités monétaires, analyse stratégique, politique de l'offre et interrogation sur les limites de la croissance. Cette pluralité aide à identifier les questions auxquelles répond chaque théorie, ainsi que les hypothèses qui les distinguent. Il se démarque des manuels d'introduction classiques par son format de consultation, fondé sur des notices autonomes, des synthèses très courtes, des illustrations et des prolongements suggérés. Ce parti pris le rend accessible et maniable. Mais impose une lecture lucide, comprendre une théorie en quelques minutes signifie en saisir l'ossature, non en maîtriser les démonstrations ou les controverses. Pour qui cherche une carte claire avant d'explorer les auteurs et les modèles, l'ouvrage constitue donc un point de départ cohérent, plus qu'une destination finale. Si vous souhaitez soutenir Donald Maron, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.